Dans l'évangile de Jean, chapitre 5, et lisons ce qui peut se passer lorsque la présence de Jésus est honorée au milieu d'hommes et de femmes qui croient en lui. Jean, chapitre 5, verset 1er. Évangile de Jean, chapitre 5, verset 1er. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit, et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Amen. Dieu a donc voulu que cette histoire soit là, dans les Saintes Écritures. Pourquoi ? Eh bien parce que cette histoire nous aide à faire la même expérience. Une expérience, même si au début, notre athéisme ou notre religion ne nous permet pas de bien dire qui est Jésus. Vous avez vu, cet homme est guéri par Jésus et il ne sait pas qui c'est qui l'a guéri. Donc vous voyez que c'est merveilleux, on peut partir de très loin dans les ténèbres, très loin dans l'aveuglement, très loin dans l'ignorance, et pourtant être au bénéfice de la guérison. Ce qui prouve, vous voyez, que même si quelqu'un vient pour la première fois écouter l'évangile, qu'il ne connaisse rien de Jésus, mais à partir du moment, et c'est ça la clé, que Jésus est là, que nous honorons sa parole, que nous réalisons la beauté de sa présence, car Jésus a dit, lorsque deux ou trois, c'est merveilleux ça, de mes enfants seront assemblés à mon nom, il ajoute, je serai au milieu d'eux. Vous vous rendez compte, si Jésus avait dit à moi, pour être présent dans l'église, il faut au moins qu'il y ait 80% de l'assemblée qui soit réunie. On était quand même là en difficulté, vous ne croyez pas? Pourquoi? Eh bien parce que ce n'est pas obligé que toute l'assemblée soit réunie pour que le Seigneur nous honore de sa présence. Le Seigneur, il est là. C'est ça qui est important. Le problème, ce n'est pas d'être dans une église de telle ou telle dénomination. Le problème, est-ce que nous honorons sa parole? Car Jésus est catégorique. Si quelqu'un m'honore, je l'honorerai. Donc ce soir, nous sommes là, nous avons chanté des cantiques. Ce qui est important, c'est qu'on réalise ce qu'on a chanté. On a chanté « Jésus est au milieu de vous ». Quelqu'un qui ne comprend pas, dit « Tiens, ils sont culottés ces gens de dire ça ». On ne chante pas quelque chose de notre propre initiative. C'est le Seigneur qui l'a dit. Il est au milieu de nous. Peut-être que quelqu'un est perdu. Dieu veut le sauver. Peut-être que quelqu'un est malade. Dieu veut le guérir. Peut-être c'est les deux. Alors ce qui nous étonne dans cette affaire, c'est que cette piscine s'appelait Bethesda. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire Bethesda. Bethesda, ça veut dire maison de miséricorde. Et l'image est pitoyable, dans le sens où L'église doit être une maison de miséricorde. Vous êtes d'accord? Toutes les églises du monde, toutes, devraient porter ce nom. Toutes les églises du monde auraient sur le fronton de leur bâtiment Bethesda, ça tiendrait debout. Pourquoi? Parce que dans la maison de Dieu, il doit y avoir sa miséricorde. Mais ce n'est pas pour ça que ça se réalise. La preuve, c'est que à cette piscine, où de temps en temps une intervention divine se produisait, eh bien, nous voyons qu'il y avait une foule de besoins. Vous avez vu les gens comment ils étaient? Vous ne trouvez pas que ça ressemble beaucoup à notre monde? On revient à ce verset 3. Sous ces portiques, alors imaginez-vous, il devait y avoir peut-être écrit Bethesda, gravé dans une pierre, à l'entrée. Et pourtant, regardez, en grand nombre, des malades. Vous croyez que notre monde est malade? Des aveugles. Vous croyez que les gens sont aveugles? Même dans la maison de miséricorde, vous croyez que dans beaucoup d'églises, beaucoup de gens sont aveugles? Oui. Des boiteux. Vous croyez qu'il y a des gens qui boitent spirituellement? Croyez-moi, il y en a des boiteux. Des paralytiques, des gens qui ne peuvent même plus bouger. Ça représente notre monde. Alors, ce qui est étonnant, c'est que quand vous lisez les évangiles, vous voyez qu'à des moments, Jésus a été dans un village. Le soir, tout le monde s'assemblait et tous les malades, tous, étaient guéris. Vous l'avez déjà lu, ça? C'est extraordinaire. Ça devait être une effervescence, une joie, une excitation extraordinaire. Tous les malades étaient guéris. Mais nous voyons que quelques exemples dans la Bible où Jésus s'est présenté devant tout un tas de gens qui étaient malades. Et pourtant, comme là, un seul a été guéri. Regardez l'apôtre Paul. Quand il va à Philippe, dans cette rivière, auprès de cette rivière, il y a plein de femmes qui prient. Le Saint-Esprit le conduit et il y a plein de femmes qui sont réunies. Qu'est-ce qu'elles font? Elles prient. Vous auriez pu le deviner, ça. On le lit, regardez avec moi, dans Actes chapitre 17. On voit ces femmes, dans Actes 16, le Saint-Esprit conduit. Vous savez, le Saint-Esprit conduit. Vous le croyez, ça? Alors quand on, même au début, on le visualise pas forcément. Mais, regardez, acte 16, comment le Saint-Esprit va conduire cet homme de Dieu vers cette première ville où il arrive en Europe, acte 16, regardez verset 11. « Étant parti de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine. » Donc c'était la première fois que l'apôtre Paul arrivait en Europe. Et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Réunion de sœurs. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Elle écoutait. Regardez bien ce qui se passe. Il y a plein de femmes donc qui sont en train de prier. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande, « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Elle nous pressa par ses instances. Donc, tout un tas de femmes, combien étaient-elles? 18, 25, 30, j'en sais rien, 50. Elles étaient là en train de prier, des femmes qui croyaient en Dieu, qui aimaient Dieu. Et pourtant, si vous regardez bien, le Seigneur ouvre le cœur que de Lydie. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi? Dieu fait-il du favoritisme? Le Seigneur Jésus, ce jour-là, avait-il décidé de bénir que ce paralytique malade depuis 38 ans? C'est que Dieu voit dans un groupe celui qui le cherche vraiment. Et cette femme, c'est vrai, est-ce qu'on peut prier comme les païens priaient par habitude? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que nous pouvons nous faire piéger parfois aussi? Bien sûr. Et ce n'est pas pour ça que dans une autre occasion, les autres n'auraient pas été bénis dans les deux cas de figure que nous venons de lire. Mais une chose certaine, ce jour-là, le Seigneur Jésus est conduit dans cette maison de miséricorde où elle n'existe plus. Et c'est ce qui peut se passer dans beaucoup d'églises. Est-ce que dans une église, si quelqu'un de tout son cœur cherche Dieu, Dieu peut se révéler à lui? Bien sûr, ceux qui me cherchent me trouvent. Nous avons la preuve que lorsque quelqu'un le cherche, que ce soit dans un temple, que ce soit dans un portique, que ce soit dans une, au bord d'une rivière, lorsque quelqu'un cherche Dieu, le Saint-Esprit agira de telle façon que cette personne ait le cœur qui s'ouvre à ce que Dieu a à lui dire. Et c'est peut-être une chose qui veut, que Dieu veut vous révéler déjà ce soir. Est-ce que je suis ouvert à ce que Dieu a à me dire? Est-ce que je comprends que le Seigneur veut me dire quelque chose? Qu'est-ce que le Seigneur va me dire? À cette piscine, Jésus se présente, il arrive, le gars en question ne connaît pas Jésus, il en a peut-être entendu parler, en tous les cas, il ne le connaît pas. Mais c'est le Seigneur. Il arrive et il se présente devant lui. C'est une histoire merveilleuse. Vous aimeriez pas avoir la vidéo de cette affaire? Vous aimeriez peut-être quelqu'un là. Si vous l'avez, je suis preneur. Mais quelle histoire merveilleuse. Jésus arrive, il y a un grand nombre de gens qui sont malades et Jésus va vers un seul homme. Ce qui nous prouve qu'il faut qu'on veille à ce que nous maintenions une véritable soif de Dieu. Parce que quelqu'un pourrait dire, mais qu'est-ce que c'est cette affaire? Donc Jésus va vers cet homme et regardons la clé. Jésus, la clé c'est que Jésus soit là. Ce soir, si ce moment de partage, soit de suite, soit tout à l'heure chez vous, vous amène à développer une démarche spirituelle en réalisant, mais c'est vrai que si j'ai soif de Dieu, si je vais me retrouver dans sa présence, il va certainement, au fur et à mesure que je vais ouvrir mon cœur, comme cet homme certainement, comme Lydie, le Seigneur n'a pas plouffé pour savoir vers qui il allait aller. Il savait, dans la volonté de Dieu, que cet homme allait obéir. Parce que la question que Jésus pose est une question qui, si elle était posée par quelqu'un d'autre, pourrait faire sourire. Veux-tu être guéri ? Ça frise le cynisme, dire à quelqu'un qui est malade depuis 38 ans, est-ce que tu veux être guéri? Franchement, quelqu'un le dirait aujourd'hui, ça frise la moquerie. Vous comprenez ce que je veux dire? On est compte? Vous rendez compte? Vous allez voir quelqu'un qui est malade depuis 20 ans et vous lui dire, tu veux être guéri? Ça, on pourrait dire. Et alors, cette question, elle est archi sérieuse. Veux-tu être guéri? Mais monsieur Gou, tout le monde veut être guéri. Eh bien, écoutez-moi, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que tout le monde veut obéir. Prendre la victoire, se retrouver plus près de Dieu. Vous avez vu où c'est qu'il a rencontré Jésus plus tard? Quelques jours après, où c'est qu'il a trouvé Jésus? Dans le temple. Donc c'est la preuve que cet homme voulait connaître Dieu. Il voulait vivre quelque chose avec Dieu. Alors, est-ce que Dieu peut bénir quelqu'un qui, quelques jours après, ne se retrouvera pas dans une démarche spirituelle? Est-ce que Jésus a déjà béni des gens? Est-ce que sur 10 lépreux qui ont été bénis, il y en avait 9 qui ne s'intéressaient pas du tout à la spiritualité? Bien sûr que oui, Dieu peut bénir n'importe qui, même si la personne ne fait pas une démarche. Mais il n'empêche que le cadre spirituel, c'est que notre péché, notre paralysie, notre aveuglement, notre claudication, puisqu'il est parlé de boiteux, notre cécité spirituelle, nous amène à Jésus-Christ. Et cet homme va recevoir une parole de Dieu. Et c'est ça que j'aimerais que nous retenions. La première chose, c'est que Jésus soit là. Vous savez, si Jésus est avec vous, le reste suivra. Parce que vous savez, Jésus, on a vite fait de le mettre où ? Vous avez vu la dernière église citée dans l'Apocalypse? C'est quelque chose de profondément triste. Jésus est dehors. Les chrétiens ont réussi à mettre Jésus dehors de l'église. Jésus dit, je me tiens à la porte. Le Seigneur n'est pas là. Alors on peut dire, oui, Dieu est là. Bien sûr que Dieu est partout. Est-ce que Dieu est omniprésent? Donc on pourrait dire, oui, mais c'est pas vrai, puisque Dieu est omniprésent. Bien sûr. Mais en tous les cas, notre attitude fait que de Dieu ne pourra pas agir. Il faudra qu'il se passe quelque chose avant. Et là, Jésus est présent. Ça devait être magnifique. Tous ces malades, est-ce qu'ils ont vu, est-ce qu'ils ont compris? Enfin, je ne parle pas des aveugles, bien sûr. Mais est-ce que les gens ont réalisé que c'était Jésus qui s'avançait, etc.? Est-ce que d'autres auraient crié? Est-ce qu'ils auraient pu être guéris si d'autres avaient crié, Seigneur, Seigneur, s'ils l'avaient reconnu? Moi, je le crois. En tous les cas, c'est écrit comme ça. Alors, qu'est-ce que Jésus dit à cet homme qui est dans l'incapacité de se jeter dans la piscine? Verset 8. C'est peut-être ça, les deux seuls mots que vous avez besoin d'entendre ce soir au-delà des chants, au-delà de la prédication, au-delà de la suite. Qu'est-ce que Jésus dit à cet homme? Cet homme aurait pu contester les deux premiers mots que Jésus lui adresse. En plus, il ne sait pas que c'est Jésus. Qu'est-ce qu'il lui dit? lève-toi, prends ton lit et marche. Vous rendez compte? Trois choses qu'il est dans l'impossibilité de faire. Vous êtes d'accord avec moi? Puisqu'il est paralytique. Hein? Depuis, il est malade depuis 38 ans. Il doit être complètement sclérosé, complètement bloqué. Et Dieu lui dit, au travers de Jésus-Christ, lève-toi. Et si c'était la parole que Dieu adresse ce soir à quelqu'un au milieu de nous? Lève-toi. Vous allez me dire, mais moi, j'ai pas de problème physique. Moi, je galope comme un lapin. Mais je ne vous parle pas de cette agilité physique. Je vous parle d'une démarche spirituelle. Lève-toi. Et vous remarquerez dans la parole de Dieu que souvent Dieu a dit à des hommes ou à des femmes, lève-toi. Lève-toi, c'est bien plus important qu'une démarche physique. De dire, bon, mais je me lève, oui. Allez, levez-vous, on va faire un appel. Est-ce que c'est bien de temps en temps de faire un appel pour aider la personne à faire une démarche? C'est excellent. On peut le faire tout à l'heure, dire, voilà, si quelqu'un veut faire une démarche, levez-vous. Mais ce n'est pas une question physique. C'est quelque chose de plus sérieux. C'est quelque chose de plus profond. C'est quelque chose de plus long, à long terme. Je vais me lever. Il faut que ça change. Vous rappelez, Anne? Moi, c'est une femme qui m'a beaucoup bouleversé. Parce qu'elle a enfanté Samuel. Et c'est vrai que c'est une femme qui a marqué l'histoire d'Israël. Mais il est dit que tous les ans, elle allait à l'église, au temple, tous les ans. Et chaque année, ça ne changeait rien. Elle allait au temple, elle était sérieuse. Elle allait au temple toutes les années, et ça ne changeait pas. Ça ne changeait pas, elle était malade, anorexique. Enfin, quand on voit la liste des verbes utilisés, ça fait mal au cœur de voir comment cette femme souffrait. Il y a plein de choses, c'est vraiment terrible, cette souffrance. Et en plus, comme les années passaient, elle s'est laissée gagner par l'amertume. Parce que vous savez, à force que les années passent, une souffrance peut vite s'enraciner et se transformer en amertume. Elle le dit d'ailleurs, quand c'est l'amertume dans l'âme que je priais. Mais elle priait. Il y a déjà, ils sont amers, ils ne prient plus. Ils sont très loin de Dieu. Tous les ans. Et pourtant, regardez, on va le lire ensemble. Parce que c'est quand même comme ça que nous devons comprendre la parole de Jésus. C'est dans 1 Samuel, chapitre 1er. Tous les ans, c'est comme c'est écrit. Tous les ans, c'était comme ça. Regardez, verset 7. 1 Samuel, chapitre 1er, verset 7. Cette femme a été dans une grande souffrance. Cet homme malade depuis 38 ans, est-ce qu'il était dans une grande souffrance aussi? Bien sûr. 38 ans, c'est stipulé, ça aurait pu ne pas l'être. Il y a des choses qui sont dites parfois, c'est pour quand même nous faire réfléchir. Oui, on peut souffrir longtemps. Premier livre de Samuel, chapitre 1er, voyez, on va lire le verset qui nous intéresse. Toutes les années, vous y êtes? C'est important qu'on calise ça. Toutes les années, il en était ainsi, chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel. Voyez, donc, elle montait à la maison de l'Éternel tous les ans. Et ça a duré des années. Là, par contre, on ne sait pas combien d'années ça a duré, mais comme c'est au pluriel, on en doute que ça a duré des années. Elle pleurait, elle ne mangeait pas, etc., etc. Et regardez au verset 9. Cette année-là, son cœur avait décidé autre chose. Anne se leva. Il y a une démarche. Et quand Jésus dit à cet homme malade depuis 38 ans, qui était certainement paralytique, puisqu'il ne pouvait pas se jeter dans la piscine, je n'ai personne. Et c'est terrible aujourd'hui de dire j'ai personne. D'ailleurs, quand son mari lui dit, mais quand même, Anne, est-ce que je vaux moi pas mieux que dix fils? Ouais, que dix fils. C'est bien les amis. C'est merveilleux des amis. Un bon mari, une bonne épouse, de bons enfants, de bons amis. Est-ce que c'est bien? Mais il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. C'est merveilleux l'amitié. Mais il y a des choses dans la vie que les gens à côté ne peuvent pas faire. Même s'ils font de leur mieux pour consoler. Mais cette année-là, à un moment donné, c'est terminé. Il y en a assez. Elle se lève. Ça démontre qu'elle ne va pas aller dans le temple de la même manière. Comme Lydie ce jour-là. C'est pour ça que Dieu certainement a envoyé l'apôtre Paul. En plus, l'apôtre Paul... Cette femme, elle priait, c'était pas des paroles en l'air, c'était sérieux. Et Dieu, je sais pas si vous rendez compte, a envoyé l'apôtre Paul. Qu'est-ce que ce gars malade depuis 38 ans, on l'amenait tous les jours, on le laissait là, mais vous rendez compte, c'est affreux. Qui vous dit que ça faisait pas un mois qui avait entendu parler de Jésus à Oanan et qu'il a dit bon, il faut qu'il se passe que le Seigneur fait quelque chose. Est-ce que vous croyez que Dieu entend les cris, nos larmes? Vous savez, nous on prie des fois, on n'a pas des prières forcément académiques, mais vous savez, un soupir, est-ce que ça peut être une prière? Eh oui. Et Dieu y voit. Et Dieu a conduit le Seigneur Jésus dans cette piscine et il lui a dit lève-toi. Et si c'était les deux mots qui résument l'ordre de Dieu, l'ordre, moi les ordres j'aime pas, hein. Eh bien écoutez-moi bien, si c'est un ordre de Dieu, laissez-moi vous dire que c'est pas un ordre, c'est une bénédiction. Et si ce soir le Seigneur vous dit, lève-toi, commence à marcher, prends ton lit, arrête de te plaindre, cherche ma face, lève-toi, on peut l'expliquer de plusieurs manières, lis ta Bible. Est-ce que vous croyez qu'en lisant la Bible ça peut contribuer à notre sanctification? Eh oui, puisqu'il est dit que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Est-ce que c'est pas dit sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité? Est-ce que vous vous rendez compte de la grâce de chercher à comprendre qu'est-ce que ça veut dire? Lève-toi, mais peut-être que le matin déjà, peut-être c'est pratique au niveau du matin. Lève-toi pour chercher ma face. Parce qu'il y a déjà, ils sont paresseux. Moi, combien de gens m'ont dit, oh, le matin, j'arrive pas à me lever. Oui, mais peut-être qu'il faudrait arrêter de se coucher à 2 heures du matin. Et commencer à se coucher de bonne heure pour pouvoir chercher la face de Dieu. Lève-toi. Vous savez, est-ce que c'était sérieux les paroles du Seigneur? Bien sûr que c'est condensé en 4 ou 5 mots. Lève-toi, prends ton lit et marche. 7 mots. C'est une prédication très courte. Vous trouvez pas? Vous trouvez pas que c'est un peu court comme prédication? Hein? Est-ce que ça peut suffire quelques mots de la part du Seigneur? Mais c'est pour cela qu'il faut apprendre à faire silence, comme Jérôme Fabio nous le rappelait si bien mardi soir dans la réunion. Mes brebis, elles connaissent ma voix. Cet homme était, je vais le dire, un pauvre type. Lydie, je ne sais pas, c'était une marchande de pourpre, peut-être que c'était une femme plus aisée, certainement qu'elle était peut-être, elle avait réussi. La façon dont il nous a parlé d'elle montre que c'est une femme qui a des moyens. Mais que l'on soit pauvre, que l'on soit riche, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on prenne au sérieux ce que le Seigneur nous dit, même si ça se résume en 7 mots, et que le Seigneur y reparte. 7 mots? Mais c'est déjà beaucoup. Puisqu'un jour, il y a même un homme qui avait compris l'autorité de Dieu qui a dit, dis un mot. Vous voyez comme quoi ça peut se résumer encore plus court. Mais peut-être qu'un mot vous suffira pour être guéri. Quelques mots, un passage, un psaume, le psaume que nous a très bien fait chanter tout à l'heure Antoine, le psaume 91, en 2 versions, c'est extraordinaire. 2 musiques différentes, 2 versions en école, il faut le faire. Hein. Le psaume 91 peut amener la bénédiction sur vous, oui ou non? Eh bien, dès ce soir, je vais lire le psaume 91. Si vous recevez le psaume 91 dans votre esprit, je peux vous dire que vous ne vous inquiéterez plus jamais. Oui ou non? Méditez-le. Mémorisez-le, apprenez-le, demandez au Seigneur qu'il vous le fasse descendre dans votre esprit, et je peux vous dire que lorsque vous aurez vécu le psaume 91, vous ne saurez même pas ce que c'est l'inquiétude. Parce que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut vit dans le repos. Un psaume, un mot, et ce garçon il l'a fait. Je ne sais pas, il a dû forcer. Est-ce que vous pensez, est-ce que ça a dû être facile de se lever? Lève-toi. Est-ce que ça a dû être facile? Personne ne sait. Est-ce que vous pensez, au fur et à mesure que les années de conversion s'accumulent, est-ce que vous pensez que Dieu ait pu l'aider à se lever? Vous croyez que Dieu peut l'avoir aidé? Moi, je le crois. Que quand il nous demande quelque chose, il nous aide à le faire. Vous savez, lorsque le Seigneur nous donne des paroles qui paraissent peut-être un peu difficiles au début, repens-toi, convertis-toi. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, mais c'est compliqué. Laissez-moi vous dire que si vous essayez, le Seigneur, il vous aidera à le faire. Je ne pense pas, je ne sais pas si Jésus lui a pris la main, lève-toi, on ne sait pas, parce que c'est très succinct. Est-ce que Jésus peut lui avoir pris la main? Qu'il l'ait fait ou pas, je suis sûr que si Dieu lui a demandé de se lever, c'est qu'il pouvait le faire. Ce que Dieu vous demande, vous pouvez le faire. N'écoutez pas le diable qui depuis des années vous essaie de vous faire croire que vous ne pouvez pas vous repentir, que vous ne pouvez pas changer de religion, que vous ne pouvez pas passer des ténèbres à la lumière, que vos parents et tatati. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est de la mauvaise foi. Si vous voulez être sauvé, vous serez sauvé. Celui qui veut, il recevra la vie éternelle. Et cet homme, il a dû repartir chez lui. Je sais pas comment. Moi, je me fais des films depuis 35 ans. Je me fais des films. Je me demande comment cet homme, il a dû rentrer à la maison. Avec son livre, là. Tu sais, comme les ballons de foot, là. Ou de basket, là. Comment il a dû rentrer chez lui, cet homme. Vous pensez qu'il était heureux? Une parole. Une parole de Jésus que l'on prend au sérieux. Et lisez la parole. Retrouvez-vous dans sa présence. Le plus important, c'était que Jésus soit là. Et dans la maison de miséricorde, on devrait tout faire pour que Jésus soit continuellement présent. Tout à l'heure, vous allez rentrer chez vous. Votre chambre, votre studio, je ne sais pas, l'appartement dans lequel vous vivez, est-ce qu'il peut tout d'un coup se transformer en maison de miséricorde? Est-ce que franchement, tout à l'heure, votre chambre, vous pouvez sortir dans la rue, ou dans la rue, dans le couloir, et écrire « Bethesda ». Voilà comment sera ma maison à partir d'aujourd'hui. Plutôt que Google ou Facebook. Ça vous fait rire. Mais je pense que si on était honnête, plusieurs pourraient écrire devant chez eux ce qui les occupe le plus. Mais laissez-moi vous dire que sur la porte de votre cœur, vous dites maintenant, ça sera la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu. Laissez-moi vous dire que sa présence va vite se manifester et que vous expérimenterez la guérison, le salut. Et que si vous ne l'expérimentez pas, c'est parce que vous ne le voulez pas. Parce qu'il n'est pas possible que Dieu mette dehors quelqu'un qui vient à lui. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et quand les gens me disent, « Oh, monsieur Gou, moi j'ai cherché Dieu, et je ne l'ai pas trouvé. » Mais je leur dis, « Vous n'avez pas dû chercher longtemps. » Parce que la Bible dit que quiconque le cherche, le trouve. Cet homme, je ne sais pas, en tous les cas, nous ne pouvons que compter une fois de plus sur la miséricorde de Dieu qui, lui, sait venir vers nous. Parce que même si on ne peut pas faire tous les pas, tous les autres qui manquent, c'est lui qui les fera. Oui, il a été vers cet homme. Ça valait la peine? Pour un seul? Jésus, pour un seul, tu t'es déplacé à Bethesda? Quand même, toi, le Seigneur du ciel et de la terre, c'est bien pour un village en entier. Mais pour un pauvre type, il a fait pire que pour lui. Quand il a été vers le Gadarénien, laissez-moi vous dire que c'était pire, parce qu'il a fait toute cette démarche à Gadara, il a traversé tout le pays, il y a même eu une tempête en mer, il a risqué, entre guillemets, sa vie, mais bon, c'est une façon de parler. Vous avez vu, tous les disciples, ils ont vécu un truc pas possible. Pour qui? Pour un homme possédé. Jésus a fait la démarche. Alors laissez-moi vous dire que quand vous lisez la Bible, si le Seigneur a fait la démarche pour ce paralytique, ou pour le gadarénien, ou pour Lydie, par le biais d'un homme, laissez-moi vous dire qu'il la fera pour vous. Mais de grâce, lisez la parole, et vous vous lèverez, et vous prendrez votre lit, c'est-à-dire que vous en aurez terminé avec ce qui vous clouait au sol, et vous marcherez dans la grâce. Et cet homme, il s'est retrouvé dans le temple. Gloire à Dieu. Et vous avez vu la remarque que Jésus va lui faire? C'est une des seules fois d'ailleurs dans la Bible où on voit une remarque pareille. « Va, lui dit Jésus, et ne pêche pas, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Donc on peut en déduire que la paralysie de cet homme, dans ce cas de figure, était liée au péché. Comme quoi le péché est vraiment un problème. Et le péché nous paralyse, et le seul moyen, c'est Jésus, qui au calvaire a versé son sang pour nous délivrer. Gloire à Dieu. Et notre réunion n'aurait pas de raison d'être si nous ne terminions pas en rappelant que le seul moyen d'être sauvé, délivré, libéré, guéri, pardonné, fortifié, etc., est d'aller au calvaire et dire « Seigneur, je veux ton sang précieux ». Couvre-moi par ton sang précieux. Seigneur, pardonne-moi. Je suis un pécheur. Vous voyez, le gars, il a pas demandé pardon. Et est-ce qu'il était pardonné? Eh oui, il était pardonné. C'est pas parce qu'on dit, il y a des gens, c'est comme les gens qui disent, je résume parce que cette image, elle est claire. Les gens qui disent, je t'adore. Et qui désobéissent à Dieu. Est-ce que ce sont des adorateurs? Bien sûr que non. Mais par contre, quelqu'un qui ne prononcerait jamais le mot adorer, mais qui obéit 24 heures sur 24 heures, sur 24, c'est un adorateur. Et là, c'est pareil. Il y a déjà, ils demandent peut-être pas pardon verbalement, mais dans leur cœur, ils disent, Seigneur, aie pitié de moi. Et Dieu le fait. Il l'a fait pour cet homme, il le fera pour vous. Alors, on va se recueillir. Et peut-être, c'est à vous maintenant de dire, oui, j'ai compris.
l'important c'est la présence de Dieu. Je vais me retrouver tout à l'heure dans ma chambre, elle s'appellera Bethesda. Jésus a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte et prie ton Père qui voit dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc vous pouvez transformer votre petite maison, votre studio en Bethesda, et vous verrez que Jésus honorera sa parole. Prions le Seigneur. Vous savez, Dieu savait qu'il viendrait ce soir, qu'il serait là. Peut-être que vous êtes malade, pas physiquement, mais intérieurement, blessé, aveugle, pas physiquement bien sûr, mais que vous ne voyez pas la grâce, vous ne voyez pas l'espérance que Dieu voudrait vous donner, si vous saviez l'espérance qu'il veut vous donner, la paix profonde qu'il peut lui seul vous donner. Oui, je vous assure, nous transformerions toutes nos chambres en maison de miséricorde. Et nous supplierions notre Seigneur de nous adresser un verset, un texte. Il y a des gens qui veulent être bénis et qui lisent jamais la Bible. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc prions, et Dieu vous adressera une parole. Vous obéirez et vous serez guéris. Notre Père, notre Dieu, merci pour ces histoires qui nous montrent comment Lydie a été bénie, qui nous montre comment Anne, au bout de tant d'années, a été au bénéfice de ta grâce, qui nous montre combien cet homme, dont nous ne connaissons même pas le nom, a été bouleversé parce que tu te trouvais avec lui. Accorde-nous, Seigneur, cette faveur de nous trouver avec toi, toujours avec toi, afin que ta vie nous soit communiquée. Et tu vois, Seigneur, s'il y a quelqu'un ce soir qui a besoin d'une onction, d'une délivrance, d'une guérison, accorde-lui cette grâce de s'enfermer dans sa chambre et de t'invoquer. Et qu'il réalise ta présence, car tu es un Dieu qui ne ment point. Si tu dis que tu es avec un homme, que tu le vois, c'est parce que c'est la vérité. Alors Seigneur, fais-nous grâce, afin que nous aussi, nous nous retrouvions comme cet homme dans le temple pour te servir et pour servir de témoignage à tous ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, que les expériences que nous ferons nous amènent à être utiles, vraiment à être utiles, entre tes mains. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.